Alors, peut-être certains sont parmi nous sont un peu bricoleurs. Sinon, je vais faire appel à vos souvenirs fort, fort lointains pour certains, comme moi, du collège et des cours de sciences physiques. Avez-vous déjà fait un court-circuit ? Voilà. Donc, on apprend au collège que l'électricité prend toujours le circuit le plus court. Donc, le terme, je pense, est de là de court-circuit. Si vous deviez faire une course... Ah, mais oui, si je lance pas le... Ça va pas le faire. Voilà. Si vous deviez faire une course, quelle piste choisirez-vous ? Je pense celle qui va tout droit. La plus rapide, la plus simple. J'ai un profil qui veut que je vais toujours au plus simple. J'essaye toujours de trouver des solutions, même ici à Champfleury, pour que on va simplifier les procédures d'inscription ou autre, de synthétiser les choses, enfin bref. Alors c'est bien souvent un avantage. Faut quand même faire attention à ne pas faire des courts-circuits. Parce que des fois, on va aller trop vite et du coup, on n'a pas forcément les bonnes solutions. Et je crois que dans la vie spirituelle, vous le savez, c'est rarement la ligne droite. C'est bien plutôt un steeple. Vous savez ce que c'est ? Hein, c'est une course, parce qu'il y a l'athlétisme, hein, l'Europe, là, comment on dit ? Championnat d'Europe, ah, c'est un mot qui m'échappe. Championnat d'Europe. Et une Française a gagné le 100 mètres, en fait. Et donc, c'est une course où on doit faire des sauts d'obstacles, où il y a des rivières, enfin, il y a plein de choses, qui est assez longue et difficile. Ben, la vie spirituelle est un petit peu comme cela. Alors, on a commencé une série courte, une série sur Colossiens. Et ce matin, nous allons parler du combat de Paul, comme vous l'avez un petit peu compris. Je remercie Pierre, parce qu'il savait pas trop, il connaissait le passage, hein, et il a lu, et il a essayé de trouver une louange, et il a dit pas mal de choses qui vont dans le sens du message. Donc il a déjà su retirer l'essence du texte. Donc dans Colossiens, on va lire à partir du verset 24 du chapitre 1 jusqu'au verset 5 du chapitre 2. Et donc c'est le combat de Paul pour l'Église. Je vous invite à lire le passage, et après on priera encore. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps, de tout temps, et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage comme à Pontcharra. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette lettre que Paul a écrite aux Colossiens depuis sa prison. Cette lettre que tu as permis qu'elle vienne jusqu'à nous. Merci pour tout ce qu'elle peut nous enseigner sur qui tu es, sur ton œuvre, sur ton amour et sur la vie que nous devons mener ici-bas. Seigneur, que par ton esprit tu puisses nous parler, nous faire comprendre ta parole et nous encourager. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, comme vous pouvez un peu le voir dans le texte, on va y revenir, hein, il est question de combat. Et je vais prendre, pour parler de ce texte ce matin, des illustrations, vous l'avez peut-être un peu compris, tirées du sport. Alors, pourquoi ? Parce que Paul, dans 1 Corinthiens 9, associe ce combat aussi à des athlètes dans l'arène. Il associe à la course et il associe aussi au combat, alors la lutte ou la boxe, on ne sait pas trop, parce qu'il dit « je frappe », mais non pas à l'aveuglette ou dans le vent, mais pour toucher ma cible. Bon. Donc, on va pouvoir prendre cet exemple-là. Bien sûr, c'est d'actualité. Il va y avoir les JO en plus, bientôt. Et il y aurait eu une autre actualité que j'aurais pu prendre, qui est la guerre, mais peut-être un peu plus difficile, un peu plus dure. Et loin de vouloir minimiser en prenant le sport, cela nous permet aussi peut-être de mieux nous identifier à ce que ça peut représenter pour nous ce combat. Parce que ce n'est pas toujours facile et simple. Et donc nous verrons deux aspects. Le premier... Comme vous pouvez le voir sur l'image, elles sont fracassées. C'est contribuer aux souffrances. Ce n'est pas toujours évident de faire du sport. Ça nécessite beaucoup de discipline et d'entraînement et de donner de soi-même. Et physiquement, parfois, on peut être au bout du bout. Et le deuxième, eh bien, c'est la joie et la gloire qu'on peut avoir au travers de ce combat. Donc, le premier point... contribuer aux souffrances. Alors, dans ce texte, il y a un passage un peu difficile qui est le verset 24 et je ne vais pas sauter par-dessus. On va s'y pencher un petit peu pour essayer de bien l'interpréter. Certains ont vu dans ce passage qu'il fallait souffrir dans notre chair pour compléter l'œuvre rédemptrice de Christ. Il faut savoir qu'à cette époque-là, chez les Colossiens, il y avait une tendance gnostique juive. Et donc, dans le gnosticisme, il y avait deux tendances opposées, mais toutes deux visant à ignorer le corps. Première tendance, c'était l'ascétisme. Il fallait se meurtrir. Il fallait se flageller, il fallait flageller ce corps duquel il fallait se détacher et complètement abandonner. Et l'autre tendance, à l'opposé, c'était au contraire le libertinage. Le corps, c'était rien. Seul l'esprit comptait et on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec notre corps. Et donc, on voit que Paul, dans ce texte, je ne sais pas si vous l'avez tout compris à la première lecture, il emploie plein de termes un petit peu bizarres, de caché, de mystère, de révélé, de connaissance et ainsi de suite, de discours séduisant, de pleine intelligence. Et c'était tous des termes que ces gens-là employaient, ces gnostiques juifs. Paul va donc reprendre leur langage, mais pour les ramener à Christ, car tout est en lui. Alors, ces souffrances auxquelles Paul va suppléer, va compléter ce qui manque à Christ, eh bien, je pense qu'on peut dire d'entrée qu'effectivement, elles ne sont pas liées à la rédemption. Ce n'est pas ce gnosticisme ascète. Il ne faut pas se meurtrir pour pouvoir compléter l'œuvre de Christ pour être sauvé. Vous l'avez vu la dernière fois, au verset 20, Paul dit que en Christ, par son sang, tout a été réconcilié avec Dieu le Père. La réconciliation, la paix est totale en Christ. Il n'y a rien à ajouter. Alors, quelles sont ces souffrances dont Paul parle, qu'il doit compléter, souffrances de Christ pour l'Église ? On voit dans Acte 9, quand Paul a sa révélation de Christ, Jésus lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » On voit que Christ lui dit que Paul est en train de le persécuter. Or, Christ est au ciel. Et quand Paul, du coup, persécute les chrétiens et l'Église, Jésus lui dit « C'est moi que tu persécutes. » Et on voit que par là que Christ a part à nos souffrances. Il souffre avec nous ici sur terre. Par son esprit, il ressent ce que nous endurons. Souvent, moi j'ai pris le message d'Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos blessures dont il s'est chargé, comme quelque chose que Christ a fait à la croix. À la croix, il a porté nos souffrances, nos blessures. Et c'est vrai. Mais je réalise que jour après jour, Christ continue à souffrir avec nous. Ce que tu souffres, ce que tu ressens, Christ le ressent maintenant. Il est là, avec toi, dans ta souffrance. C'est pas simplement, il voit notre souffrance, il ressent ma souffrance. Il souffre avec moi. Paul dit qu'il supplie, qu'il complète les souffrances de Christ. Encore une fois, tout a été accompli à la croix, il n'y a rien à ajouter. Mais l'Église, en tant que telle, que nous la connaissons aujourd'hui, à l'époque de Christ, quand il était sur terre, elle n'existait pas. Elle a été créée que à la Pentecôte. Et l'Église, avec des non-juifs, eh bien, elle a commencé à exister que 10 ans après la Pentecôte, avec Corneille, premier non-juif qui s'est converti. Et il a fallu encore attendre 3 ans de plus pour que existe une première église de non-juifs. Alors vous voyez que ça n'a pas été évident. L'église n'a pas été là tout de suite. Et pour que l'église, elle en arrive là, il a fallu des souffrances. Donc Paul, le premier, était le persécuteur, et d'autres après lui, surtout quand lui, il s'est converti. Jésus avait prévenu ses disciples qu'ils seraient appelés à souffrir, tout comme lui. Quand on lit les épîtres de Paul, on voit à bien des reprises que Paul dit à ses lecteurs, à ses collaborateurs, de ce qu'ils vont souffrir, ou il les appelle à souffrir à cause du nom de Christ. Il est lui-même, comme ça a été dit, comme Pierre l'a dit, en prison au moment où il écrit sa lettre. Et il se trouve même honoré dans la joie, verset 24, de pouvoir souffrir pour les Colossiens, pour qu'ils puissent bénéficier de l'annonce de l'Évangile. Et comme je l'ai dit, certains ont souri, et nous aussi, qu'on puisse bénéficier de cette annonce ici à Pontcharra, de Paul, de tout ce qu'il a pu endurer, pour que nous aussi, nous puissions entendre le message de salut. Donc ainsi, en souffrant à cause du message du salut de Christ pour l'Église, Paul dit qu'il participe aux souffrances de Christ pour son Église. Et aujourd'hui encore, l'Église souffre pour le nom de Christ. On appelle ça communément l'Église persécutée. Dans bien des endroits dans notre monde, des frères, des sœurs souffrent ou sont même tués à cause de leur foi. Et tout comme Paul, nous pouvons nous aussi souffrir avec eux, intercéder pour eux, et plus encore selon nos moyens. Il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, hein, le 7 juin, j'ai reçu le mail de Porte Ouverte. Je vous lis juste une petite partie du texte. « Quand on contemple l'action de Dieu sur le terrain pour bénir son Église persécutée, on le loue pour les vies transformées face à la persécution. » Naturellement, nous sommes aussi reconnaissants pour vous, c'est-à-dire nous, monde occidental, qui vous tenez aux côtés de vos frères et sœurs en priant pour eux, en les aimant, en les soutenant. Un évangéliste chinois a déclaré « Ne donnez pas pour oublier le corps de Christ, donnez pour être le corps de Christ. » C'est fou de voir, je ne sais pas si certains parmi vous aussi sont abonnés à Porte Ouverte, de voir que dans leur souffrance, ils arrivent à louer Dieu. Dans leur persécution, ils arrivent encore à louer Dieu et à rester fidèles et à tenir et à ne pas lâcher leur foi. Et là, ce pasteur chinois dit de dire, ben, quand on prie avec eux, eh bien, on fait partie du corps de Christ. On est le corps de Christ, on souffre avec eux. Et j'aimerais vous inviter justement à combattre avec eux dans la prière, de participer ainsi aux souffrances du corps de Christ. Dans ce passage, il est souvent notion de combat. Alors je l'ai mis là un peu en gras, dans les différents textes. C'est toujours dangereux et difficile d'actualité les passages de combat, surtout à cause de notre actualité, des attentats et toutes sortes de choses. Paul est en prison, et pourtant il dit qu'il combat avec force et intensité pour ses lecteurs, mais il ne fait rien. Il est en prison. Il ne peut pas être activiste. Et je prends ce terme un petit peu d'un côté négatif. Du coup, son combat, il est plutôt spirituel, émotionnel, cognitif et épistolaire, puisqu'il a écrit plusieurs lettres depuis sa prison. Paul s'y engage totalement, et on pourrait dire même avec ses tripes. Son combat, c'est d'annoncer l'œuvre de pardon et de salut en Jésus-Christ. Et quand Paul y combat pour sa foi, il n'est pas tellement question de revendiquer, d'attaquer, de bloquer, de détruire, mais plutôt d'annoncer, d'avertir, d'instruire avec sagesse en vue de la plénitude des personnes, afin que les personnes deviennent des adultes, ça veut dire des personnes complètes, des personnes parfaites. Et Paul nous dit que ce combat, c'est pour rechercher l'unité dans l'amour. C'est paradoxal, hein ? Il combat pour rechercher l'unité dans l'amour. Il n'y a pas plus pacifiste que ça, de vouloir être unis dans l'amour. Alors, mais pourquoi c'est un combat ? Pourquoi ça devrait être un combat ? Pourquoi c'est si difficile de pouvoir juste dire ce en quoi on croit ? Et Jésus nous avertit dans Jean 16, parce que ces notions-là, ces valeurs que nous avons en Christ, ben, elles ne sont pas du monde. Tout le monde est pour l'unité dans l'amour. Tout le monde est pour l'encouragement, pour même la réalisation de soi. Tout le monde est pour le développement personnel, à condition que cela ne remette pas en cause leur propre manière de vivre. Et que généralement, c'est plutôt l'autre qui doit changer que soi. J'ai parfois l'impression que ceux qui clament la tolérance le font pour ceux qui les arrangent et peuvent vite devenir intolérants. Alors, peut-être vous allez lever les boucliers. « Oh Jean-Jacques, c'est cliché, tu exagères et tout. » On a eu le conseil, jeudi, et Michael nous a appris que certaines associations sur Pontcharra n'ont pas voulu participer à la semaine rêve parce qu'il y avait des chrétiens. Je simplifie peut-être, mais c'est à peu près ça. Parce qu'il y avait nous. Voilà. Ça les dérangeait. Et ils n'ont pas voulu participer. Vous vous rendez compte ? Est-ce que c'est si cliché que ça ? Alors, je vous l'ai déjà raconté, mais qui parmi vous n'a pas eu des fois des refus parce qu'il était chrétien. Petite histoire là, que je vous ai déjà racontée, c'est que quand j'étais dans le bureau d'ingénieur, j'ai été suspendu de mes fonctions parce que j'avais refusé de surfacturer en heure un travail. Et mon directeur de me dire « Mais je n'ai rien à faire de vos considérations religieuses, monsieur Guittard. » Voilà. Pourtant, ça semble normal. On ne va pas facturer des heures qu'on n'a pas faites, ou je ne vais pas surfacturer des heures parce que ce n'était pas ce qui avait été déterminé à la base. Et il n'était pas content. Et du coup, eh bien, il m'a dit « Ne touchez plus rien. » Voilà. Parce que j'étais chrétien, pourtant je n'étais pas du genre à dire à tout bout de champ aux autres « Convertissez-vous, bande de païens !» Vivre notre foi, c'est un combat. Vivre selon nos valeurs de la Bible, du bien et du mal, dans ce monde qui n'en veut pas, c'est un combat. Et c'est un combat auquel il nous faut veiller et ne pas nous laisser emporter. C'est une course, nous dit Paul, qu'il faut aller jusqu'au bout et qu'il faut remporter. Un combat de tous les jours. Et Paul veut nous encourager à vivre selon ses valeurs. Lui qui est en prison, et il dit « Je me réjouis d'être en prison parce que je combats pour vous, pour quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. » Il souffre pour l'Église, pour le corps de Christ, et il veut nous encourager et nous affermir. Oui, le Seigneur nous a avertis, il y aura des tribulations. Oui, on aura des confrontations. Oui, le monde n'aime pas ce en quoi nous croyons, même si c'est très bien, si on peut dire c'est tout beau, tout rose, parce qu'il n'a pas voulu de Christ combattre pour son nom. C'est un combat de tous les jours, souffrir avec Christ, pour Christ, avec son Église. Mais il y a aussi de la joie à vivre ce combat, et c'est le deuxième axe. Alors, pas forcément la joie comme on peut s'y attendre, hein, comme j'ai dit, tout beau, tout rose. Paul est en prison, mais il y a de la joie à vivre et à découvrir qui est Christ. Et donc, Paul nous dit que le premier bénéfice, c'est d'être uni dans l'amour, d'être encouragé, d'être enrichi dans la connaissance de Christ. Je pense que quand on vit des difficultés avec quelqu'un, quand on passe une épreuve avec quelqu'un, quand on a un lien, il y a un lien qui se crée et il y a donc un rapprochement. Et ce rapprochement dont nous parle Paul, cette unité se trouve dans l'amour et plus précisément, à mon avis, avec tout ce qui suit, dans l'amour de Christ. Connaître Christ. On n'est jamais au bout de cette relation avec Christ. Car Paul nous dit qu'en Christ sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, ici, comme je vous l'ai dit au début, hein, Paul reprend un peu tout le langage gnostique, mystique, de mystère, de sagesse et de tout ce qui est caché et autres. Ce n'est pas vraiment un langage que j'arrive bien à décrypter, mais ce que je retiens, c'est qu'en Christ, on a toutes les réponses à nos questions. Malheureusement, on n'a aucun jeune et il serait très content de savoir pour son bac. Non, ce n'est pas ce genre-là de question. Mais plutôt sur pourquoi on est là, pourquoi je souffre et qu'est-ce qui m'attend plus tard. Dieu a un plan pour l'humanité, il a un plan qui nous dépasse, qui nous transcende, mais un plan qu'il veut nous révéler. C'est un Dieu qui se révèle à nous. Alors, c'est vrai que il ne le fait pas en une seule fois. Et il y a bien encore des choses cachées, très certainement. Et j'en discutais encore cette semaine avec Gabriel. Mais pourquoi Dieu n'est pas... Parce qu'elle préparait l'école du dimanche. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu plus tôt? Pourquoi Christ n'est pas venu plus tôt? Pourquoi il a fallu attendre tout ça? Le peuple hébreu, et puis qui se révolte, et qui est tant de choses qui se passent. Et moi, je dirais, mais pourquoi Jésus n'est pas venu maintenant? Avec toute notre capacité de communication, il n'y a personne qui pourrait douter quoi, de tout ce qu'il fait, de ses miracles et autres. On ne sait pas. En tout cas, pour les Colossiens, c'était le moment. Maintenant, pour eux, ils avaient accès au salut. C'était quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, ça a mis du temps pour que les Juifs se disent Ah, mais si on acceptait aussi les non-juifs, parce que Jésus l'avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était impensable. Quand Pierre a été voir Corneille, il a dû rendre des comptes aux autres apôtres. Comment t'as été chez un juif ? Et Pierre, il dit, ouais, mais attendez, ils ont reçu le... tu as été chez un non-juif, merci. Et Pierre, il leur dit, attendez, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Qui suis-je, moi, petit Pierre, pour m'opposer à Dieu ? Alors les autres disent, bah, ok, ouais, c'est vrai, effectivement, on est obligé d'accepter. Ça a été dur, ça a été dur. Pour nous, ça nous semble naturel de rentrer dans le plan de salut. Mais pour eux, c'était tellement extraordinaire. Salut accessible pour tous. Mais est-ce que des fois, on n'est pas un peu comme ça aussi ? Est-ce que des fois, on se dit « Non, mais celui-là, jamais le salut pour lui. Ah non, mais celui-là, mais il m'a fait tellement de mal. Seigneur, mais amasse des charbons ardents au-dessus de sa tête. » Enfin bon, ça ne veut pas tout à fait dire ça en réalité, mais à toi la vengeance, Seigneur. Hein ? Allez, ne le rate pas. Et pourtant, quand on lit des témoignages, des bourreaux se sont repentis. Connaître Christ qui transforme les vies, qui transforme les cœurs. Plus nous développons cette connaissance, plus nous nous plongeons en qui il est, plus nous sommes transformés en son image. 2 Corinthiens 3, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. La connaissance de Christ qui nous transforme, qui transforme les cœurs et les situations. Un Dieu qui se révèle l'espérance de la gloire. Chose impensable, les païens, les sans-dieux, voire des idolâtres, faire partie du royaume de Dieu. Et plus encore, nous sommes à l'image de l'espérance, de la gloire, de l'infinie bonté de Dieu. Voilà, je parle comme Paul maintenant. Nous sommes, Christ nous a acceptés, Christ m'a accepté moi, il m'a pardonné. Et c'est tellement extraordinaire qu'on se dit, waouh, s'il m'accepte moi maintenant, s'il fait preuve de tellement de bonté pour nous accepter, eh bien, il nous donnera encore toutes choses avec lui. Et c'est aussi un passage de la Bible. Dieu est tellement bon en pardonnant à ceux à qui on ne peut pas pardonner que cela nous montre quelle sera la gloire que nous aurons avec lui dans le ciel. Alors, il n'y a pas besoin d'initiation, de rituel gnostique ou autre, hein. Tout est en Christ. Il a tout accompli. Il suffit simplement de venir à lui, apprendre à le connaître et à mettre notre confiance, notre foi, hein, verset 5, en lui. Est-ce que je comprends tout le plan de Dieu ? Non. Est-ce que je comprends tout de la foi ou de la théologie ? Non. Mais je sais qu'en Christ et son œuvre, j'ai tout ce qu'il me faut pour marcher ici-bas et tenir ferme jusqu'au bout. Est-ce que dans ma vie chrétienne, j'ai eu des épreuves et des doutes ? Oui, j'ai douté. Même douté de ma foi. À quoi ça sert de croire ? Est-ce que j'aurai encore des doutes ? Je pense certainement. Mais nous trouvons en lui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tant que nous revenons à lui et que nous demeurons en lui, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher ici. Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » Christ est en nous, il vit en nous, il est avec nous. Il souffre avec nous, mais il nous renouvelle aussi, il nous donne sa victoire. Parce qu'il a remporté la victoire. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Christ a vaincu et il nous fait part aussi de sa victoire. Prenons courage, tenons ferme dans notre foi, quelles que soient les difficultés. Prenons exemple sur tant de frères et de sœurs qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ont tout perdu. Ils ont été chassés de leur village, ils n'ont plus de travail. Parfois même certains membres de leur famille sont morts. D'autres sont en prison depuis des années et pourtant ils restent attachés fermes dans leur foi parce qu'ils mettent leur espérance en Christ. Ils ont tout pleinement en Christ. Et ils ont cette assurance, comme nous pouvons avoir cette assurance, que Christ est avec nous. Non seulement il ressent ce qu'on vit, il vit les souffrances avec nous, mais aussi il veut nous donner sa force à pouvoir continuer à marcher et à tenir ferme. Le combat spirituel, une course d'obstacles. Contribuer aux souffrances, souffrir avec l'Église persécutée, souffrir à cause de notre foi, mais savoir aussi que Christ souffre avec nous. La joie et la gloire à venir, Christ transforme les cœurs et les vies. Que nous ayons cette certitude d'être soutenus par Christ aujourd'hui et cette assurance d'un meilleur demain. Que le Seigneur nous encourage et nous fortifie dans cette marche ici-bas, dans ce combat spirituel. Amen.